À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes le jeudi 16 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
L'inquiétude se propage en Europe à propos du secteur bancaire. Aujourd'hui, c'est un établissement helvétique qui cristallise toutes les attentions. Les investisseurs sont sur leur garde, nous vous en parlons. Le système de recyclage des déchets plastiques de la Belgique se renforce avec la construction d'une nouvelle usine. Elle sera située à Lommel, dans le Limbourg. Enfin, scandale dans le milieu du tennis, devant la justice cette semaine, et une foultitude de projets pour la 5G, c'est aussi au programme du jour. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Et ça ne va toujours pas fort aujourd'hui sur les marchés financiers. On vous en parlait en début de semaine, l'inquiétude demeure après les déboires de trois banques américaines, et à présent, c'est le sort de Crédit Suisse qui rend les investisseurs méfiants. La banque helvétique n'était déjà pas bien, mais elle a avoué mardi avoir identifié des défaillances importantes dans ses contrôles internes sur ses rapports financiers. Conséquence hier, plusieurs indices sont dévissés en bourse, comme le Belvin de chez nous, moins 2,65%, ou moins 3% pour l'Eurostock 600. De son côté, le cours de Crédit Suisse a plongé de 24% et a entraîné tout le secteur bancaire avec lui en Europe. Crédit Suisse, c'est ce qu'on appelle une banque systémique, c'est-à-dire qu'elle pourrait en entraîner d'autres dans sa chute, alors une question obsède les observateurs, la crise va-t-elle se propager? Sacha Couadbac, vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'Écho, vous signez l'édito du jour, des deux côtés de l'Atlantique, c'est le contrôle des banques qui fait défaut.
Ben oui, on le voit bien déjà avec la Silicon Valley Bank. Les pertes potentielles étaient colossales sur son portefeuille obligataire. Et pourtant, eh bien, le bilan a traversé comme une fleur l'audit de son contrôleur KPMG. Pas terrible de ce côté-là. Du côté Crédit Suisse, ben, c'est un peu pareil. C'est quand même une banque systémique. Donc, on se serait attendu à un contrôle quand même assez important. Et pourtant, là aussi, il y a eu des retards dans le contrôle. Et pourtant, aucun signal d'alarme n'a sonné. Donc voilà, deux cas... avec deux fois des défaillances au niveau des contrôles, ben finalement, c'est ça qui pèse sur la confiance qu'on peut avoir dans ces établissements bancaires. On parle de deux cas isolés, mais si on s'aperçoit que ben, la surveillance, le contrôle n'est pas suffisant, c'est carrément tout le système financier qui est mis en doute. Et quand le système financier est mis en doute, ben, c'est comme il y a 15 ans, il y a une perte de confiance totale et donc c'est tout le système financier qui est à terre.
Et c'est dans ce contexte que la Banque Centrale Européenne doit se réunir aujourd'hui pour statuer sur une nouvelle hausse des taux. Les marchés anticipaient un bond de 50 points de base, histoire de marquer un nouveau coup contre l'inflation. Mais avec la crise bancaire qui se profile, la BCE pour limiter cette hausse à 0,25 points de pourcentage seulement. Il y a tout juste un an, Alexander De Croo, le Premier ministre, promettait l'accélération du développement de l'éolien en mer par la construction de nouveaux parcs, mais aussi une plus grande interconnexion avec les pays voisins. Hélas, aujourd'hui, ces belles paroles subissent un sérieux coup de frein. Les appels d'offres pour la zone Princesse Elisabeth au large d'Ostende ont dû être reportés d'un an à cause de retards dans les études préliminaires et l'octroi de permis pour des liaisons terrestres, et la puissance attendue a été revue à la baisse. Autre embûche de taille, l'île énergétique danoise devrait avoir, elle, de son côté, près de 3 ans de retard. La liaison sous-marine de 600 km entre nos deux pays ne sera donc pas disponible avant 2033. La Belgique comptait pourtant sur cette interconnexion pour acheminer le surplus énergétique des parcs éoliens danois vers notre réseau. Elle devra donc prendre son mal en patience. Et de 5, Fos Plus vient de signer pour la construction de sa 5e usine de recyclage de déchets d'emballage plastique en Belgique. Elle verra le jour à Lommel dans le Limbourg et devrait être opérationnelle dès l'an prochain. La nouvelle usine permettra de retraiter le polyéthylène de haute densité, qui compose notamment les bidons de détergent, et le polypropylène expansé qui s'apparente à de la frigolite dure. Le site emploiera 60 à 65 personnes pour un investissement total de 30 millions d'euros. Pour ce qui est de la gestion opérationnelle, la nouvelle unité a été confiée à l'opérateur néerlandais Rimoplast, qui est tout sauf un inconnu en Belgique puisque sa maison mère a déjà enlevé un contrat pour une usine qui recyclera des bouteilles et des barquettes en plastique PET à Neuchâteau. Wim Gins, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes CEO de Fos Plus. Cette cinquième usine, c'est le dernier maillon de la chaîne de retraitement de tout ce qu'on peut retrouver dans les sacs bleus. Cet écosystème de recyclage en Belgique, avec 5 centres de tri et 5 usines de retraitement, c'est assez unique, non ?
Oui, tout à fait. L'écosystème est tout à fait unique ici en Europe parce que nous avons un simple message de tri partout ici en Belgique avec le système de collecte du sac bleu élargi. Et c'est par cela que nous avons naturellement pu introduire les 5 centres de tri et puis maintenant les cinq autres usines de recyclage ici en Belgique. Et nous avons prévu dans les contrats avec notre partenaire que tous les matériaux qui sortent en fait de ces usines seront réutilisés dans l'économie ici en Belgique. Donc c'est pour ça que le boucle est en fait totalement bouclé et c'est un écosystème qui tourne en soi.
Parlons à présent d'une affaire qui a défrayé la chronique. Mais commençons d'abord par un homme, le personnage central de cette histoire, surnommé le Maestro. Il s'agit de Grigor Sarxian, un Saint-Gillois de 33 ans. Il est en fait le dirigeant de la branche belge d'une mafia arménienne qui a gangréné le milieu du tennis européen dans les années 2015-2016 avec des paris mirobolants sur des matchs truqués. On ne parle pas ici de matchs du Grand Chelem, mais plutôt de tournois Challenger avec des joueurs pros qui oscillent entre la 150e et la 1000e place mondiale. De bons joueurs certainement, mais qui ne peuvent pas compter sur leur prize money pour vivre décemment avec leurs frais énormes et donc plus facilement corruptibles. Après des années d'enquête en Belgique et à l'étranger, l'affaire Maestro arrive demain devant le tribunal correctionnel d'Audenarde, avec pas moins de 28 personnes sur les bancs des accusés, dont 7 joueurs belges, parmi eux un ancien numéro 3 national. Ils sont soupçonnés de participation à une organisation criminelle. L'affaire impressionne par son ampleur et surtout par ses conséquences dans le milieu du tennis et des paris. Julien Balboni, vous suivez cette affaire pour l'Écho, expliquez-nous.
Alors c'était une affaire absolument majeure pour la lutte contre les manipulations de paris sportifs. Il faut savoir que lors de l'arrestation du principal suspect, plus de 180 contacts de tennismen professionnels à travers l'Europe ont été retrouvés. Et il y a des enquêtes en cours à travers tout le continent afin de parvenir à déloger ce réseau. Alors ça a eu des conséquences assez importantes et c'est ce qu'ont noté des associations internationales contre les manipulations des paris sportifs. C'est que une fois que les arrestations ont été réalisées, le nombre d'alertes sur les paris sportifs douteux a chuté d'environ 50%. Il faut noter également que des opérateurs de paris sportifs belges contactés par nos soins considèrent qu'aujourd'hui, les alertes sur les paris sportifs dans le monde du tennis sont devenues des choses extrêmement rares, ce qui permet de montrer que l'arrestation de ce réseau a été assez décisive.
C'est approuvé du bout des lèvres, mais c'est approuvé quand même. Et c'est un accord à minima, mais c'est un accord quand même. Le groupe des 10, qui réunit patrons et syndicats, vient de parvenir à un accord interprofessionnel pour la période 2023-2024, ce qui est en soi une performance, tant les relations sont tendues ces derniers temps entre partenaires sociaux. N'attendez donc pas de grands changements dans cet accord, les ambitions sont modestes, mais il reste quand même quelques décisions importantes, comme pour le salaire minimum, qui continuera à augmenter pour tendre vers le salaire allemand. L'accord prolonge également toute une série de dispositions concernant les fins de carrière, les heures supplémentaires et le chômage économique. Patrons et syndicats ont co-signé une lettre au gouvernement pour lui demander de ne pas toucher à la fiscalité des pensions complémentaires, un caillou dans la chaussure du ministre Vincent Van Petegem, qui avait envisagé un changement dans ce sens dans son projet de réforme fiscale. L'accord adopté par le groupe des 10 doit encore être validé par les instances syndicales, puis place aux négociations sectorielles. Bon, ne tournons pas autour du pot, il faut mettre le paquet. La Belgique a vraiment du retard dans le déploiement de la 5G. Pour donner un sérieux coup de pouce aux premières réalisations concrètes du réseau ultra rapide, la ministre des Télécoms, Petra de Sutter, vient de débloquer un budget de 20 millions d'euros. Une jolie somme qui vient du budget global du plan de relance et qui servira à financer 21 projets qui font appel à la 5G. Quelques exemples, un système de contrôle du trafic en temps réel qui avertit les usagers en cas d'accident, un système d'envoi automatique d'un drone sur les lieux d'un incendie pour collecter les premières informations avant l'arrivée des pompiers, ou encore un système de traduction simultanée pour les infirmières à domicile. De belles idées, L'entreprise liégeoise EVS présente également un projet. Voyons de quoi il s'agit avec Nicolas Bourdon, responsable communication de la société spécialisée dans les technologies vidéo.
Le projet Flexible Production Control Room est un projet dont l'objectif était d'associer la technologie de connectivité 5G à une technologie de production. Donc nous avons élargi cette collaboration avec le Théâtre de Liège, mais de pouvoir également utiliser ce même studio, ces mêmes infrastructures pendant la journée pour des cours qui seraient organisés par l'IEX. Les caméras sont déployées au théâtre, comme les caméras sont déployées dans un auditoire, et donc les flux 5G vont transporter les flux vidéo directement vers le centre de production qui sera localisé à la Grand Poste de Liège. Donc ça permet non seulement des gains de productivité, des réductions de coûts opérationnels, mais également un impact sur l'empreinte carbone. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de ce projet, c'est de prouver que cette technologie, l'avancée technologique de la 5G combinée à de la production vidéo permet d'apporter tous ces gains.
Lancé il y a environ 4 mois maintenant, ChatGPT, l'agent conversationnel, change déjà de version. Et qui dit nouvelle version, dit nouvelle capacité évidemment, qui rapproche encore un petit peu plus l'intelligence artificielle développée par OpenAI du raisonnement humain. Cette nouvelle version se veut plus précise, plus créative. OpenAI affirme que ce robot serait capable de postuler à l'université de Stanford. Mais toutes les lacunes de ChatGPT n'ont pas encore été résolues. Ces données datent toujours d'avant 2021 et il n'apprend pas ou pas encore de son expérience en continu une chose à la fois. ChatGPT 4 est pour l'instant accessible aux abonnés payants d'OpenAI, mais il sera progressivement mis en place pour les utilisateurs de Bing, le moteur de recherche de Microsoft qui a investi des milliards de dollars dans OpenAI. Bon, et pour ceux qui en douteraient encore, faut-il le signaler, ce brief n'a pas été préparé par une intelligence artificielle, mais par nos petites mains, enfin en tout cas par Laurent Fabry aujourd'hui. Et nous serons à nouveau sur le pont demain pour vous informer. Alors, ICO et à demain.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.